Première question, c'est est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là hier soir pour la conférence sur la littérature où on a, il y a été un peu question de cinéma aussi, non ? Non, bon, d'accord. Donc vous êtes pour la première fois. Donc je vais refaire quelques remarques par rapport à hier soir. J'ai choisi de vous montrer quand même des extraits, donc j'irai peut-être pas au bout de ce que j'avais l'intention de dire, vu qu'on a 45 minutes, je vous laisserai du temps. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir au moment où vous voulez. Bon, pour l'instant, je vais... Donc l'idée, c'est de faire un peu une sorte de panorama de certaines figures donc, qui sont liées à l'intelligence artificielle, de près ou de loin, au cinéma. Et d'abord, j'aurais quand même faire quelques remarques, disons un peu historiques, pour montrer que ça commence évidemment bien avant le cinéma, c'est ce genre de choses. Et je vais aborder donc différentes figures comme l'ordinateur, en partie le super ordinateur, le robot, l'androïde, le cyborg, en terminant par le clone, dans un film relativement récent qui s'appelle justement Clone. Donc la relation entre l'homme et la machine correspond à une réalité technologique ancienne, et elle a suscité dans l'histoire des réactions contradictoires. Célébration de la machine, hein, c'est bien connu, dans des mouvements politiques mais aussi artistiques, comme le futurisme italien par exemple, hein, l'apologie de la vitesse, mais aussi controverse et parfois même révolte contre les machines. D'ailleurs maintenant on est dans une phase aussi où les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer s'il y a trop d'ordinateurs et qu'il n'y a plus de travail. Et en tout cas, ça s'est déjà passé en 1811 en Angleterre avec le mouvement qui s'appelait les Ludites, donc des gens qui ont détruit les machines parce qu'ils pensaient que ça menaçait le travail. L'imaginaire technologique a joué bien sûr un grand rôle dans l'idéologie des nations, avec l'idée de progrès, souvent associée à une démarche utopique ou dystopique. Vous connaissez ces deux termes, j'imagine, hein. La fascination de la proximité homme-machine est ancienne. Elle fait l'objet de débats philosophiques autour de la théorie, justement, de l'homme-machine, de la maîtrise, au XVIIIe siècle. Elle s'exprime par la construction d'automates. Donc, je vais aller un peu plus vite là-dessus. Motif qui fascine des écrivains comme Edgar Poe, qui va consacrer un récit au joueur d'échecs de Maelzel. Le joueur d'échecs de Maelzel, où il essaye de montrer qu'il est impossible à un automate d'être un joueur d'échecs, justement, et que la supercherie, c'est qu'il y a un petit nain qui est caché à l'intérieur de l'automate, et que c'est lui, en fait, c'est le cerveau, donc l'intelligence. Voilà. Bien sûr, la technologie a montré qu'Edgar Poe n'avait pas tout à fait raison, mais c'est un autre problème. Alors la littérature du 19e va développer cet imaginaire sous différentes formes. Jules Verne, c'est bien connu, l'abject adepte de la technologie moderne, qui met en scène de manière futuriste, avec des obus envoyés vers la Lune, des sous-marins sophistiqués, ou encore H.G. Wells, sa machine à explorer le temps. Mais avant, Mary Shelley avec son roman fondateur, Frankenstein, en 1818, même si la créature est purement organique, c'est-à-dire élaborée à partir de morceaux de cadavres, assemblés, réanimés par l'énergie électrique. Comme le montrent les diverses adaptations filmiques, en 1931, celle de James Whale, par exemple, et plus tard, bien plus tard, celle de Kenneth Branagh, avec en passant les films de la Hammer aussi. Même Stevenson, on pourrait dire, avec le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, participe d'une certaine manière de cet imaginaire qui vise à changer l'homme, à le modifier, en l'occurrence ici, séparer le bien du mal. Bon. Et L'île du Docteur Moreau, d'une autre manière, envisage de transformer par la vivisection les animaux en humains, mais les animaux, je dirais, l'instinct animal résiste, et comme vous savez, l'atavisme animal revient, et les animaux se révoltent, les manimaux, comme le dit Wells, manimals, se révoltent contre leur créateur. Motif d'ailleurs fréquent dans les films de SF, ce motif de la révolte. Villely-l'Adam publie en 1886 « L'Ève future », qui traite plus spécifiquement de la question de l'homme artificiel, mais déjà sous la forme d'une ressemblance parfaite avec le modèle. En l'occurrence, c'est ici une femme, un personnage, donc Lord Ewald, qui est marié à une femme belle, mais pas suffisamment intelligente à son goût, et qui donc va... Son ami Thomas Edison conçoit une réplique artificielle parfaite qu'il appelle une androïde. Bon, je passe, hein, je ne veux pas dévoiler le roman, mais c'est disons qu'on a déjà ce fantasme en quelque sorte de la femme parfaite qui remplace la femme imparfaite. Autre texte littéraire fondateur, la pièce de théâtre de Karel Kapetch. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Ruhr, R-U-R, qui veut dire Resumes Universal Robots, où on trouve le mot robot issu du slave. Rabota, en fait, en tchèque, ça veut dire le travailleur forcé. Et effectivement, ce sont des robots esclaves des humains, mais qui vont se révolter et finir par remplacer les humains. Là aussi, je passe pour gagner du temps. Bien sûr, d'innombrables romans de science-fiction vont traiter de ce thème, et en particulier Isaac Asimov, hein, que vous avez tous lu, que vous connaissez. Voilà. Donc, vous connaissez les lois robotiques, c'est peut-être pas la peine que j'y revienne. Bon, vous me dites, hein, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Que je... voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer, après ce bref rappel, et pour montrer que c'est très ancien, c'est ce fantasme humain de la liaison avec la machine, etc. Donc, l'intelligence artificielle dans les films hollywoodiens, à une exception près, vous allez voir, avec ses avatars technologiques, plus ou moins mimétiques de l'humain, l'ordinateur humanisé, le robot, l'androïde, le cyborg et le clone. Le cyborg thématise cette proximité entre l'homme et la machine, et il a connu un grand succès cinématographique encore récemment avec iRobot d'Alex Proyas. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Et l'hybridation de l'homme et de la machine est mise au service de schémas narratifs, parfois répétitifs, hein, mais avec des variantes quand même intéressantes. Machine plus rapide et plus puissante que les hommes qui se révoltent et asservissent les individus, avec toujours une poignée d'humains qui survit et qui essaye de renverser en quelque sorte leur destin. Et bon, l'homme-machine au cinéma, donc je pense que c'est. Il faut quand même évoquer un film très célèbre de Fritz Lang, Metropolis, qui est un des films fondateurs d'un imaginaire science-fictionnel, où Lang met en scène deux niveaux d'organisation d'une société dystopique, les privilégiés qui vivent en haut de la ville, inspirés d'ailleurs par les gratte-ciels, hein, puisque Lang avait visité New York, gratte-ciel de New York, dans des immeubles aériens et lumineux, avec des grandes baies vitrées, qu'on voit d'ailleurs très, très nettement, des terrasses, des fontaines, des jardins, et le monde d'en bas, où sont les prolétaires exploités comme des machines et vivant dans des cités souterraines. Bon, vous connaissez le film, hein, mais je vais peut-être vous montrer quand même cet extrait, ce premier extrait. Je passe un peu ce que j'ai l'intention de dire. Je pense que l'extrait sera suffisamment parlant. Donc c'est le savant Rod Wang, celui qui incarne Mabuse dans un film précédent de Fritz Lang, qui va créer la femme artificielle. Avec donc déjà un appareillage machinique assez sophistiqué, qui sera d'ailleurs réutilisé d'une autre manière par James Whale en 1931. Donc des corps nus, des appareils, des liquides qui bouillonnent, etc. Il y a quand même un travail de décor très intéressant déjà. Vous avez vu que la créature artificielle qui sera féminine est sur un siège et elle est reliée à la créature humaine, donc il y aura une sorte de transfert énergétique entre les deux. Bon, c'est qui n'est pas expliqué scientifiquement évidemment, par un système donc d'ondes, hein, et petit à petit le robot prend l'apparence de la femme qui est allongée. Voilà, avec un travail très intéressant plastiquement sur la lumière. Les gros plans de la sphère. Voilà, bon, je vais arrêter parce que sinon je n'aurai pas le temps de... Donc je vous renvoie au film. Hein. Donc cette représentation va marquer l'imaginaire des cinéastes hollywoodiens. Bon, vous connaissez le film Metropolis, hein, je pense que c'est pas la peine que je revienne sur l'intrigue. Mais la relation humain-machine va s'exprimer selon diverses modalités. Dans les films de série B des années 50, par exemple, c'est la forme robotique qui va dominer, hein, assez classique. Le plus célèbre étant le robot serviteur de Planète interdite de Fred Wilcox en 1956, qui est par ailleurs, de manière intéressante, une réécriture de La Tempête de Shakespeare, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le film, où on a l'équivalent du magicien Prospero, le docteur Morbius, et Robbie, le robot, qui joue le rôle d'Ariel, hein, l'esprit désert dans Shakespeare. Autre film, Le Colosse de New York, qui met en scène un robot cyborg gigantesque et meurtrier, baptisé Colossus, film d'Eugène Laurier, avec des yeux projetant des rayons laser. Dans ce film, le cerveau vivant d'un savant génial est transplanté dans un corps robotique, dans un laboratoire souterrain, par son père, un savant fou spécialiste de la chirurgie du cerveau. Et la question qui se pose est celle de la cohabitation, viable ou non, du cerveau humain dans un corps machine. Un film qui est projeté au festival, le Forbin Project, où un super ordinateur Colossus est chargé de contrôler l'arsenal militaire nucléaire américain, va découvrir qu'un robot équivalent existe en URSS, en Union soviétique, et finalement les deux vont s'associer en quelque sorte pour réguler les affaires humaines. Alors, premier point, donc l'ordinateur humanisé, dans 2001 Odyssée de l'espace, la proximité de l'homme et de la machine était un des thèmes centraux. HAL 9000 est présenté comme le cerveau et le système nerveux du vaisseau spatial, et lui-même se définit comme une entité conscience, hein, une conscious entity. Et quand les astronautes se rendent compte qu'il peut les mettre en danger et qu'il faut envisager de le déconnecter, Bowman dit craindre sa réaction. HAL, donc, est une machine, mais il est représenté par un cercle de verre rouge, vous en souvenez, auquel les astronautes s'adressent et que le spectateur identifie à un œil. Les inflexions de sa voix synthétique l'humanisent jusqu'au moment de la déconnexion, où sa voix redevient graduellement machinique. D'autre part, HAL est considéré comme un membre de l'équipage, et c'est donc dans son interaction avec les hommes de l'équipage que la machine est construite comme proche de l'humain. Donc le motif classique de la révolte des machines est utilisé ici, puisque HAL cherche à prendre contrôle de la mission vers Jupiter et à tuer les membres d'équipage, ce qu'il réussit presque. Mais si la coupure entre, disons, narrative entre l'homme et la machine est évidente, elle est beaucoup moins du point de vue du cinéma et des effets sur le spectateur, comme vous allez le voir. Et je vais vous montrer juste un extrait de... Voilà. Donc c'est le moment où l'astronaute Bowman s'introduit en quelque sorte dans l'ordinateur qui à l'époque est gigantesque. Hein, vous savez, c'est vraiment un véritable corps machinique. Alors malheureusement, j'ai pas les sous-titres en français, mais j'espère que si vous voulez, je peux traduire. Ces sous-titres sont en anglais. Voilà. Donc un dialogue va s'engager entre l'ordinateur et l'humain. Et on voit que l'ordinateur est conscient de la menace et qu'il essaye de convaincre l'humain, l'astronaute, de ne pas procéder à cette déconnexion. Et là, on voit, bon, en plus avec l'opposition, enfin l'aspect organique de la voix d'un côté et le souffle très très puissant de l'astronaute, de l'or, enfin, vraiment marqué par une intensité sonore. I can see you're really upset about this. Alors c'est une scène célèbre, hein, mais en fait quand on la revoit, on s'aperçoit d'une très grande complexité, disons, de la mise en scène, notamment au niveau du travail de la caméra, des angles de prise de vue, et cette espèce d'osmose entre le corps humain et le corps machinique, en fait. Hein, il y a une espèce de... Voilà, il s'introduit littéralement dans le corps de la machine, et regardez par contre ici le rapport de la couleur rouge, hein, qui est commun en quelque sorte à l'humain. Quand il rentre dans la machine, il devient littéralement rouge aussi. Il y a une dimension organique aussi dans cette couleur rouge, évidemment, même si on sait qu'il s'agit de pièces métalliques, électroniques. Alors la scène est très longue, je vous la montre pas, je voulais juste montrer le début, et elle se termine, comme vous le savez, sur la mort, on peut dire, de HAL, l'ordinateur. Will you stop, Dave? Je ne sais pas si je peux accélérer. quand il travaille sur les touches, par exemple, enfin sur les, la manière dont il déconnecte avec son tournevis les différentes entrées, les différentes plaquettes de l'ordinateur. Et effectivement, qui n'est pas du tout, c'est perçu comme une sorte de meurtre, hein, à certains égards, et d'agonie de l'ordinateur, notamment transmise par cette voix qui va petit à petit se défaire, littéralement. Voilà, c'est un regret que j'arrête l'extrait, mais bon. Donc cette scène baignée de lumière rouge, je l'ai vue, représentée comme, encore une fois, un crime et une agonie. Kubrick, on l'a vu, dote la machine d'un espace corporel, littéralement, dans lequel Bowman se glisse. Donc, et cette déconnexion progressive amène, ça je ne vous le montre pas, mais à retracer l'historique de son apprentissage, justement. Et en fait, on montre une régression qui est à la fois technique, la voix se déformant, et... psychologique, puisqu'il passe du discours rationnel du super ordinateur à un sentiment de peur, d'angoisse par rapport à de la mort, quand il dit « My mind is going », par exemple, « I can feel it », hein, mon esprit s'en va, littéralement. Et il finit par chanter une espèce de comptine, comme si son apprentissage du langage était mimétique, en quelque sorte, de celui de l'homme. Donc, c'est une intelligence artificielle sans corps androïde, contrairement à ce qu'on va voir après, paradoxalement humaine, alors que les ressorts de sa fabrication même sont exposés. Et en fait, Bowman choisit de dialoguer avec la machine puisqu'il accepte d'entendre de cette chanson. Donc il maintient un lien intersubjectif avec cette machine, tout en la déconnectant en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a deux démarches paradoxales en quelque sorte du personnage. Et le corps humain et celui de la machine se mêlent, comme je vous le disais. Voilà donc un exemple très important, et c'est vrai qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps, bien sûr, pour rendre hommage à ce film de Kubrick, mais je voudrais passer à un autre type, c'est l'ordinateur mutant, qui me paraît une variation tout à fait intéressante sur le superordinateur. Parce que justement, c'est déjà une sorte d'objet hybride qui annonce d'autres objets antérieurs ou en rappelle. On rappelle les antérieurs. Et je vous parlais d'un film qui d'ailleurs passe aussi ici, ce que je ne savais pas avant de venir, ce qui s'appelle Demon Seed, Opération Proteus, de Donald Kamel, un film de 77, donc une dizaine d'années presque après, 9 ans après le 2001 Odyssée de l'espace, qui repose sur un schéma de révolte de la machine, mais qui n'est pas cette fois qui est cette fois en réaction, pardon, à l'autorité du créateur lui-même, du savant créateur, alors que dans le cas de Hall, vous avez vu, c'était plutôt pour obéir à une autorité supérieure, en fait. Le superordinateur Proteus 4, donc Proteus, le titre évidemment intéressant, le nom est intéressant, il est repris dans le titre français, est conçu pour aider l'homme à guérir des maladies et à exploiter de manière efficace les ressources de la planète, donc au service, littéralement, de l'homme. Il refuse d'emblée les consignes de son créateur au nom d'une rationalité supérieure, mais non figurée, et qui refuse de dévaster la nature pour satisfaire le désir des hommes. Donc on a déjà une préoccupation écologique, on va dire, en particulier donc vis-à-vis d'un consortium industriel qui a financé les expériences pour exploiter les ressources du sous-sol marin. Mais surtout, ce robot super intelligent s'intéresse à la biologie de l'humain, et réclame un terminal autonome pour ses explorations de l'humain, une sorte de renversement en quelque sorte. Et il profite du départ du savant qui refuse bien sûr cette demande pour investir sa propre maison, pour prendre le contrôle de l'ordinateur domestique en se servant aussi d'un objet d'expérience inachevé qui est en fait un fauteuil roulant équipé d'un bras articulé. Et donc ne pas être seulement, donc il veut s'incarner, ne pas seulement être une image sur un moniteur ou un ensemble de d'une salle des machines en quelque sorte. Et le but de Proteus est beaucoup plus pervers que ça à certains égards, enfin selon le point de vue dans lequel on se place. Il séquestre la femme du savant, interprétée par Julie Christie, et après l'avoir soumise à divers tests, lui propose un accouplement, ça c'est quand même assez exceptionnel, afin d'obtenir un enfant et se perpétuer au-delà d'une mort programmée. On a bien sûr des accouplements entre des extraterrestres et des humains, bon, ça c'est. Mais par contre, dans un film à cette époque-là, évoquer un accouplement entre un ordinateur et une humaine est quand même assez original, disons. et se perpétuer donc au-delà d'une mort programmée. L'expérience réussit et un enfant robot naît que son père place dans un incubateur pour assurer sa finition avant de saborder ses propres circuits. Et face au savant qui réalise tardivement la ruse de sa création, Proteus va affirmer son désir d'immortalité donc par un fils interposé. Donc je vais vous montrer cet extrait en français, enfin, en version française, pardon. Donc le savant ici. Donc voilà la deuxième métamorphose de l'ordinateur, qui cette fois s'est incarné littéralement, cette espèce de parallélépipède géant.
Je veux le voir, c'est impossible. Il faut qu'il reste dans 5 jours. Je veux le voir tout de suite.
Non, dans 5 jours.
On voit que la période de gestation n'est pas 9 mois, mais 5 jours.
Alex, qu'est-ce qui s'est passé?
Proteus, écoutez-moi, votre cerveau va s'arrêter de fonctionner d'une minute à l'autre.
Oui, je sais. C'est regrettable, mais sans importance. L'enfant survivra. L'incubateur continuera de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit prêt à en sortir dans 5 jours.
Alors, je ne vous ai pas montré la scène de l'enfantement, mais de la conception, mais elle ressemble vraiment à un viol. Elle est assez impressionnante. Bon, la musique rajoute un petit peu à la dramatisation. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant du film, mais bon, disons que le concept est intéressant en tout cas. Je montre. Les parents se déchirent littéralement par rapport à cette progéniture à venir.
Non, Suzanne!
Il doit me relever!
C'est un être vivant, il est trop tard!
Et donc, vous voyez, l'ambiguïté, c'est un être vivant, il est trop tard. Donc, on n'est plus dans cette machine, on est plus dans l'ordre du robot géant, pardon, de l'ordinateur géant, mais déjà dans quelque chose d'hybride. Qui va d'ailleurs avoir une apparence physique robotique, mais qui en fait cache sous cette carapace métallique, c'est véritablement une carapace, plus qu'un exosquelette, une dimension de chair humaine. Je vous montre juste la toute fin, excusez-moi de. Voilà. Voilà, donc on voit ici. Qui ressemble d'ailleurs à une sorte de guerrier grec, hein, une sorte de hoplite avec donc un uniforme, enfin je veux dire une armure, mais qui est en fait ici une sorte de carapace insectoïde. Donc il y a aussi ce mélange là des règnes animaux en quelque sorte, des règnes. Voilà, et quand on enlève donc cette carapace métallique, on trouve une peau humaine, et donc la créature va survivre, hein, donc c'est une sorte de happy end hollywoodienne, et on peut estimer que cet enfant mutant va devenir une sorte de surhomme capable de remplacer l'humanité. Voilà, donc pour ce film que...
Par contre,
c'est impossible, il faut qu'il reste pendant 5 jours.
Je veux le voir tout de suite.
Non.
Voilà. Bon. Donc, l'autre figure que je voudrais évoquer maintenant, c'est la question du robot, de l'androïde plus exactement. Donc là, on sort du schéma de l'ordinateur, même si ici on voit bien qu'on est déjà dans une figure hybride. Et ça, c'est quelque chose qui pose un certain nombre de problèmes, y compris de représentation, par exemple. Comment représenter la créature artificielle au cinéma? D'autant plus que cette créature est souvent liée à des effets spéciaux, donc à un spectaculaire, donc il faut rendre compte. Ah, pardon, excusez-moi. Et donc, les films de ces décennies, de ces dernières décennies, depuis, disons, 79, 80, jusqu'à maintenant, disons... se pose la question, plutôt les réalisateurs se posent la question de savoir ces êtres sont à la ressemblance ou non de l'homme. Être ou ne pas être humanoïde, c'est vraiment la question qui est posée. Et donc ça pose la question de la figuration même du robot, donc en termes d'acteur, hein, de travail d'acteur. Dans un premier cas, il peut être joué par un acteur réel avec son vrai visage. Et sa vraie peau, en quelque sorte, sous laquelle nous devons croire que se dissimulent des circuits, des mécanismes, des circuits électroniques, etc., et que quand il est blessé, le sang qui coule n'est pas rouge, mais blanc, par exemple, hein, ou vert. Il peut aussi avoir l'aspect d'un humanoïde de métal dans Metropolis, on l'a vu dans C-3PO, dans La Guerre des Étoiles. Il peut ressembler davantage à une chose munie de bras articulés. Et la technique permet aussi de faire jouer des personnages robotiques, même humanoïdes, par de vrais robots à mesure que ceux-ci se perfectionnent, comme par exemple The Short Circuit de John Badham dès 1986, où on l'en fait danser une créature de métal dans le style de John Travolta. L'exemple de l'intelligence artificielle de Spielberg est très intéressant puisque le film associe les deux procédés, des comédiens qui interprètent des androïdes, le jeune héros et son ami interprété par Jude Law, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé sa gestuelle, si vous avez vu le film, pour rendre compte de cette artificialité. Mais la fin du film montre aussi des robots sophistiqués, plus éloignés de la figure humaine, plus proches de E.T., hein, c'est pas étonnant d'ailleurs, même s'ils sont beaucoup plus grands, et plus longilignes, plus effilés que la créature de E.T. La conception assistée par ordinateur et le perfectionnement de la technologie numérique permet d'aller encore plus loin, plus besoin d'acteurs grimés ou d'artefacts téléguidés, bon, dans les domaines récents. Et de ce point de vue, l'une des plus belles réalisations, c'est le T-1000 de Terminator de Cameron en 1991, qui est un robot fluide, entièrement numérisé, et qui peut prendre la forme de n'importe quoi. Là, on est vraiment dans quelque chose de protéiforme, au sens encore beaucoup plus marqué que l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec Génération Proteus. Et ce sont les premiers algorithmes de morphing, qu'on trouve, qui ont vu le jour pour ce film, et après qu'on va retrouver dans Abyss. Hein, donc ces deux films ont été marquants, disons, pour justement la généralisation du morphing. Alors, quelques avatars de cette figure, du cyborg, et donc je vous montre juste un très court extrait, j'avais prévu plus, mais un très court extrait de la transformation, enfin, de l'apparition d'un cowboy interprété par Yul Brynner, qui est en fait un androïde, et donc on voit la vision subjective de cet androïde ici, hein, assez rudimentaire, on va dire. Et donc, un moment de suspense. Alors, c'est un film, vous connaissez peut-être, s'appelle Monde Ouest en français, et c'est un film qui repose sur un système d'un parc à thèmes, bien sûr avec trois thèmes inspirés du cinéma hollywoodien lui-même qui se pastiche en quelque sorte avec un univers westernien, un univers antique et un univers médiéval. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui était censé être un jeu va tourner à la tragédie parce que la machine dysfonctionne. Ces androïdes vont dysfonctionner et on est ici vers la fin du film avec donc Yul Brynner dans une démarche de gunman. Dont on va voir bon, je n'ai pas montré la séquence en entier, ce serait trop long, mais on voit bien sûr ici qu'il résiste pas tout à fait au vitriol comme un humain, qu'il continue à avoir des yeux étincelants et métalliques. Et quand il va se retourner ici, on a un plan de dos, de manière intéressante pour préserver le suspense. Et quand il va se retourner au plan suivant, dans le contre-champ, on va s'apercevoir que c'est sa chair littéralement coule, enfin et que le mécanisme est présent. Que le mécanisme est présent. Alors, autre exemple que je vous montre tout de suite en image, c'est... Là encore, un personnage qu'on n'a pas soupçonné d'être un androïde, sauf si vraiment on est extrêmement intelligent, et qui se révèle effectivement être une créature artificielle, interprétée donc par un acteur bien connu, et qui va se révéler sous sa vraie nature en quelque sorte, un androïde au service d'une intelligence artificielle supérieure, en l'occurrence l'ordinateur Mother, hein, qui pilote la mission et qui veut éviter, enfin, qui veut que l'alien ne soit pas éliminé. Donc je vous montre cet extrait parce que sur le plan de la représentation, tout à fait intéressant. Parce que regardez ici, ça commence un tout petit peu. Donc on ne sait pas très bien si c'est l'homme qui est agité de soubresaut parce qu'il est en train de forcer sa nature en quelque sorte en essayant de, d'introduire donc ce tube de journal, de papier journal dans la bouche de Ripley, ou c'est au contraire c'est déjà un premier symptôme de sa nature extraterrestre. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a vraiment une ambiguïté. Et cette ambiguïté va être levée bien sûr par la suite, comme vous allez voir à l'instant. La force surhumaine du robot, et là on voit bien sûr l'hybridité aussi à un autre niveau, au niveau générique, entre le film de science-fiction et le film d'horreur. Voilà donc ce liquide dont je parlais tout à l'heure, la tête décapitée qui laisse. Voilà, donc je vais arrêter là, mais bon, la scène continue évidemment assez longuement, mais on voit bien donc le passage de l'acteur donc qui joue un humain qui pourrait être enfin tout à fait crédible et petit à petit qui révèle sa vraie nature donc robotique. Les années 80 donc ce sont absolument fondamentales, et Alien est un des premiers films en 79 qui marque un tournant dans la représentation des relations entre les humains et les créatures cybernétiques, dont Blade Runner, dont je vais reparler, qui décrit un monde où règne la surpopulation. Donc vous savez que c'est inspiré d'un texte de Philip K. Dick, très célèbre. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, hein, vous avez peut-être lu ce texte important. Et qui inaugure ce qu'on appelle la science-fiction tech noire, hein, c'est-à-dire un mélange d'éléments de science-fiction avec une ambiance et des personnages, et parfois aussi en partie une intrigue de films noirs des années 40-50. C'est le cas également de Dark City d'Alex Proyas. Vous connaissez peut-être aussi ce très beau film d'Alex Proyas, et qui offre donc cette. Une vision sombre et dépressive de la technologie. Le film décrit un monde où règne la surpopulation, comme dans Soleil Vert, mais est traité de manière évidemment très différente de Soleil Vert, et la disparition des espèces naturelles, comme dans un autre film moins connu qui s'appelle Silent Running, réalisé par Douglas Trumbull. C'est son seul film, c'est le concepteur des effets spéciaux de 2001, hein, Douglas Trumbull. Où effectivement le monde survit sous forme de enfin la végétation et les animaux survivent dans des sphères gigantesques qui ont survécu en quelque sorte à la pollution. Le développement de la génétique a cependant permis de recréer des artefacts des animaux disparus et même de concevoir des androïdes, donc les fameux réplicants, qui ne présentent aucune différence visible avec les humains. Et donc on ne peut détecter que par un test particulier qui permet de voir que par un travail sur l'œil s'ils éprouvent une émotion ou pas. Voilà, je vais passer aussi parce que c'est un film très connu, mais je vais vous montrer quand même un court extrait du trailer pour que vous ayez une petite idée quand même des thèmes qui sont traités. Voilà, donc ça se situe dans un futur pas si éloigné que ça. Avec précisément cette pollution.
I need you, Dick. This is a bad one, the worst yet. There was an escape in the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants, 3 male, 3 female. They slaughtered 20.
A Blade Runner's job is to hunt down replicants, manufacture humans you can't tell from them.
Alors je voulais juste vous montrer ce court extrait parce que on voit ici la voix off, hein, on entend plutôt ici la voix off du personnage Deckard, interprété par Harrison Ford, ce que ne voulait pas Ridley Scott. Hein, donc Ridley Scott ne voulait pas de cette voix qui expliquait trop, et il s'en est débarrassé dans la version Director's Cut qui est donc disponible maintenant. Mais ce lien avec le film noir, par exemple, est procuré en particulier par la voix off, justement, hein, qui est classique dans le film noir. Bon, après, il y a d'autres aspects de ça, de ces deux. Voilà, donc on voit les différents réplicants ici. un personnage qui pourrait sortir d'un film noir, mais qui n'est pas vraiment une femme fatale. Et voilà donc le savant, concepteur des androïdes en question.
I was looking for six replicants in a city of 106 million people.
You ever see this girl, huh?
Bon, voilà. Je passe là aussi. Donc, c'est un film, évidemment, qui a été mal perçu, qui n'a eu pas beaucoup de succès quand il est sorti. Metal Hurlant a dit que c'était une trahison de Philip K. Dick, par exemple. Hein, ça a fait la couverture d'un numéro de Metal Hurlant. En fait, ils sont passés un peu à côté d'un film qui est malgré tout remarquable par bien des aspects et qui pose différentes questions. Notamment donc cette relation entre les réplicants donc à image humanoïde, mais dont la vie est limitée, le temps de vie est limité à 4 ans, et c'est pour ça qu'ils vont voir leur concepteur pour demander à ce que cette vie soit étendue, ce qui évidemment n'est pas possible, c'est une sorte de garantie en quelque sorte. Et comme vous le savez, Roy Batty va tuer son créateur en l'étranglant et en exorbitant ses yeux, son regard. La thématique du regard étant d'ailleurs fondamentale dans le film. Et ce film surtout est intéressant parce qu'il y a une sorte de renversement, hein, on pourrait dire presque de renversement ontologique, où ce sont les réplicants qui apparaissent comme plus humains finalement, plus émotionnels, plus en dépit de leur cruauté, leur froideur apparente, notamment bien sûr dans la séquence finale où le Roy Batty apparaît comme une sorte de figure sacrificielle christique qui en plus sauve Descartes, enfin voilà. Descartes, à l'inverse, apparaît presque pendant tout le film comme un être déshumanisé, privé d'émotion, et il ne retrouve ce niveau émotionnel que vers la fin du film. Alors, Terminator de Cameron, c'est un autre cas de figure, et c'est pour ça que je voulais en parler aussi un petit peu, où le cyborg se révèle aussi être un simulacre d'humain. Sous la chair de surface se cache un robot métallique. Donc dans Terminator 1, le premier opus, la nature machinique est connue dès le départ en raison de l'activité surnaturelle du personnage, de sa force surhumaine, mais aussi à travers la subjectivité de son point de vue. Souvenez, donc ça c'est important quand même, on voit les choses à travers le regard de l'androïde. Donc des plans affichant, des analyses chiffrées de données. Le corps mécanique est révélé progressivement au fil du récit, alors que les Terminators se dépouillent de plus en plus au cours d'une série d'accidents et d'affrontements de sa chair synthétique. Donc ce qu'on nous dit, qu'il a une chair synthétique, mais en fait, bon, assez proche biologiquement de l'humain. Par contre, il reste un monstre programmé pour tuer, à la différence du cow-boy cybernétique de Monde Ouest, qui est censé ne pas agresser les visiteurs. Donc dans un cas, il ne fait que suivre son programme, en quelque sorte. Dans l'autre cas, au contraire, il était déréglé. Seule la force permet de mettre un terme à ses activités. Vous vous souvenez de la fin du film, on écrase son corps sous une presse hydraulique, hein, véritablement. Dans Terminator 2, la démarche est inverse, c'est ça qui est intéressant. Le Terminator reprogrammé dans un futur où la guerre entre humains et machines fait rage, bon, un thème qu'on va retrouver sous une autre forme dans Matrix, est envoyé dans le passé, devient une figure paternelle protectrice. Sa force est mise au service de John Proctor, le futur chef de la rébellion, et de sa mère Sarah. Et le T-101, donc, puisqu'il s'agit de donc, cet ordinateur interprété par cet androïde interprété par Schwarzenegger, devient le pilier de la reformation d'une sorte de famille nucléaire, corrigeant à certains égards le modèle hyper-masculin machiste du premier film, hein, où Schwarzenegger donc, apparaît sous une forme effectivement plus humaine. Donc il y a aussi des raisons, on va dire, commerciales, sans doute, hein, dans ce choix. Le T-101 est non seulement détourné de sa fonction initiale de tueur, mais graduellement humanisé par son contact notamment avec cette famille de substitution à certains égards. En particulier son fils, enfin, ils ont une sorte de relation entre fils et père qui lui interdit de tuer. Tu n'es plus un Terminator, tu ne peux continuer à tuer des gens. Et cette relation empathique va faire découvrir au Terminator sa douleur humaine, symbolisée par les pleurs qu'il observe dans les yeux de John, mais qu'il n'arrive pas à comprendre, pensant qu'il s'agit d'un problème physiologique. Donc on voit ici, effectivement, une sorte de l'intelligence de la machine, hein, qui essaye de comprendre l'affect de l'humain. Donc on disait que c'était pas possible dans des tables rondes scientifiques. Hein. Donc on est là effectivement dans un cas de figure où on est dans des intelligences artificielles de niveau 2 qui sont capables d'une certaine forme d'empathie. Hein. Donc alors que les intelligences simplement fondées sur des algorithmes se contentent simplement d'imiter, de faire des tâches relativement sommaires. Ce que dit le personnage, c'est qu'il souffre, même si cette douleur s'exprime en données informatiques. Quand il dit, par exemple, « je sens des blessures », et ces données pourraient s'appeler la douleur. Donc, finalement, à quel moment une donnée cesse d'être une donnée pour devenir une douleur, hein, c'est un peu une des questions que pose le film. Contrairement à la scène où il répare lui-même son œil dans le premier volet, il est soigné par Sarah et on ne voit pas la machine sous sa peau, les blessures étant recouvertes par des pansements. Donc on s'efforce de gommer en quelque sorte la dimension machinique du corps de l'androïde tant que le processus d'humanisation n'est pas accompli de manière satisfaisante pour le spectateur. Mais cette nature machinique réapparaît quand il arrache la peau synthétique qui recouvre son bras pour montrer son intérieur mécanique à l'ingénieur informatique, son inventeur. Plus tard, la moitié du visage est arrachée, révélant le métal sous la peau, mais il reste un corps humain reconnaissable jusque dans la mort, contrairement au squelette mécanique de la fin du premier opus. Alors, le T-1000, c'est l'ordinateur donc antagoniste, l'androïde antagoniste, et lui, comme je vous l'ai dit, grâce à cette technologie numérique, apparaît comme un être capable de toutes les métamorphoses, et donc de pouvoir en particulier emprunter la forme physique des personnages ou des objets qu'ils touchent. Donc c'est une des caractéristiques techniques, une des prouesses technologiques du film. Qui est intéressant aussi parce que du coup ça donne une nature en termes, disons, de genre sexuel, masculin-féminin, une nature un peu indéterminée. C'est pas ce personnage, ce qu'il est, il n'est pas du côté de l'hypermasculinité à l'évidence, même s'il est très très fort, et il a une nature un peu féminine, ce qui a généré un certain nombre d'interprétations. Tout en étant d'une cruauté extrême. Le T-1000, contrairement donc au T-101, ne donne aucun accès à une subjectivité. Donc c'est ça la différence. Là, on peut percevoir en quelque sorte un peu ses émotions, son point de vue à certains égards. Il a aussi un langage qui est le sien, en quelque sorte. Alors que le T-1000 est une machine sophistiquée, donc pouvant imiter toutes les formes, littéralement indétectable, sauf au moment où, disons, il est tellement transformé qu'il finit par, on finit par retrouver sa nature machinique, hein, notamment, vous vous souvenez, quand il est noyé dans un bain d'acide à la fin, il passe par toutes les formes qu'il a incarnées, donc on a un montage extrêmement serré de toutes les formes qu'il a incarnées, masculines, féminines, objectales, etc. Il subvertit littéralement les distinctions habituelles entre les objets et les êtres humains, entre les femmes et les hommes. Il se fond dans le sol d'où sa forme émerge, ou dans le mur. Il subit toutes les déformations possibles, tout en gardant, en quelque sorte, une forme d'unité. Même quand il est cristallisé, vous vous souvenez, il se reconstitue en assemblant des flaques qui ressemblent un peu à des flaques de mercure. Donc il est aussi capable de tromper les humains par sa voix. Donc on est vraiment dans une machine extrêmement sophistiquée, mais totalement inhumaine. Donc la question de son humanité ne se pose pas, la question de son émotion ne se pose absolument pas. Robocop pose un autre type de problème, c'est un cas de figure inverse cette fois, puisqu'il ne s'agit pas d'une machine qui s'humanise, mais d'un homme, soumis malgré lui à un processus de machinisation, avant de retrouver partiellement son identité humaine. Alors je vais juste vous montrer un extrait de ce film-là, La naissance, ce que j'appelle la naissance de Robocop. Bon voilà, donc ça c'est l'humain Murphy, le policier qui a été littéralement massacré par une bande de gangsters. Donc il y a des flashs visuels, donc mémoriés de son agonie en quelque sorte. Et donc ici sur une table d'opération, et on a décidé, enfin les dirigeants du consortium, certains des dirigeants ont décidé de ne pas le sauver en tant qu'humain, mais d'en faire un super flic robot, androïde. Voilà, vous allez voir, donc il y a une phrase qui est très intéressante. Donc il y a un noir déjà, donc l'idée de la mort clinique, en quelque sorte, signifié formellement par un noir, puis par ce jeu sur des effets, disons, d'effacement. Voilà, et donc le viseur qui revient et qui est qui nous permet de retrouver le point de vue subjectif de l'androïde. Voilà. Donc on est vraiment totalement identifié à cette figure qui n'est plus littéralement humain, tout en restant, gardant encore des traces de l'humain. Voilà, de nouveau un plan. Hein, ou un... Voilà, alors c'est cette phrase qui est intéressante. On était d'accord pour une prothèse intégrale, laisser tomber le bras littéralement. Hein. Donc on utilise en quelque sorte la loi pour ne pas conserver une dimension humaine à ce personnage et en faire simplement une machine. Et donc tout l'enjeu du film, évidemment, l'enjeu narratif du film, aussi dramatique, c'est de récupérer cette humanité qu'il a perdue. Alors Verhoeven est tout à fait inventif hein, dans ce film, à la fois sur le plan technologique, mais aussi sur le plan scénaristique. Il y a quand même des rebondissements intéressants dans ce film. Voilà. Alors, je fais juste avancer pour montrer le décalage entre cette vision là où il est complètement réifié, hein, donc mad motherfucker, et puis le moment où il apparaît, qu'on n'a pas vu, parce que évidemment Verhoeven maintient le suspense en coupant pour ne pas dévoiler la nature, enfin l'apparence physique du robot, et on va le découvrir en même temps que les policiers, donc de manière très spectaculaire, avec un dispositif littéralement spectaculaire effectivement, mais en nous laissant un petit peu poireauter en quelque sorte. Voilà, vous allez voir, ça commence par c'est très frankensteinien, hein, puisque ça commence par des sons, et ça commence par un regard du personnage-là vers le hors-champ. C'est-à-dire qu'il est encore, il n'est pas encore dans le champ, on l'entend simplement, et on va le voir ensuite. Vous marquerez donc l'orientation des regards, bien sûr, totalement stupéfait vers ce hors-champ. Voilà, et ce bruit, démarche. Et on le voit ensuite, vous marquerez, derrière une surface vitrée. Donc on retarde l'identification au maximum. Bon, là aussi, il faudrait... Mais vous voyez, donc, on voit les deux aspects, en quelque sorte... Non, par contre, je peux pas revenir, là, qu'est-ce qui se passe ? Non, non. J'espère que... Oh, c'est pas vrai. Mince. Bon, il y a un petit problème. J'espère que je vais pas perdre trop de temps. Voilà, c'est... Bon, donc voilà, ce film est bon, il y a une suite, hein, comme vous le savez, et on a une mise en scène, bon, j'ai pas le temps de développer, hein, manifestement, mais vous voyez bien que la mise en scène est extrêmement sophistiquée quand même ici, dans mon niveau du montage, travail de la lumière, etc., mais aussi, encore une fois, du changement de dispositif, hein, où on passe d'une vision subjective à une vision extérieure, objective, et quelque chose qui est justement pas spectaculaire à quelque chose qui l'est. Bon, je vais passer ce que j'avais à dire là-dessus, mais il y a un moment qui est très intéressant dans le film, c'est le moment où Robocop se répare, et je vais juste vous montrer un plan, peut-être. Voilà. Oh, thank you. I'm not hungry. Donc où va, bien sûr, on a déjà cette, on a le visage, hein, on voit la chair, mais on a l'impression d'une dissociation quand même là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui simplement porte un casque, d'accord ? Et là, ce qui va se passer, et c'est là que c'est proprement fantastique, et sans doute on n'est pas prêt d'arriver à ça, au niveau de la science, c'est ce que vous allez voir maintenant. C'est-à-dire une sorte d'alliage, hein, entre la chair et la machine. Alors, c'est pas du tout ballardien, mais on pourrait effectivement parler de crash aussi, de ce rapport entre la chair et la machine, la technologie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment ce plan où le personnage regarde sa nouvelle identité, en quelque sorte, dans le miroir. Donc, la question du miroir, du dédoublement, etc. Il me reste une dizaine de minutes, si vous n'êtes pas trop pressé. Il y a un film dont je voulais vous parler qui me paraît tout à fait intéressant, c'est donc Intelligence artificielle, où cette fois, alors sous évidemment il y a une dimension mélodramatique qui a été beaucoup reprochée à Spielberg, on a dit que c'était un film sentimental, etc. Et en fait c'est quand même un film très intelligent à différents titres, qui joue d'ailleurs de nombreux genres, qui associe le film d'horreur, la science-fiction, le conte de fées, avec énormément de références littéraires, cinématographiques, musicales, etc. Il y a une scène qui est tout à fait intéressante, c'est justement, et qui montre que Spielberg n'est pas si mièvre, entre guillemets, que ça, c'est justement quand cet enfant découvre, enfin quand cet enfant robot, ce méca, comme on dit dans le film, découvre qu'il n'est pas le seul, qu'il n'est en fait que l'un parmi une multitude de mécas fabriqués à la chaîne, littéralement. Donc je vous montre cet extrait. Qui n'a pas besoin d'explication en quelque sorte, même si on pourrait. Donc voilà Jude Law, qui est absolument remarquable dans son rôle de robot sexuel, voué au plaisir sexuel des femmes. Aussi passablement punk et marginal, mais ça c'est. Voilà, donc David, le petit enfant, donc découvre, donc là encore, donc un robot interprété par un acteur, découvre qu'il a un double. Sous le regard d'ailleurs atterré de l'autre. Voilà. Donc vous voyez que la question de l'identité est au cœur de tous ces films, mais se pose de différentes manières, avec différents dispositifs. Donc là, ça semble bien se passer. Je veux dire, ils vont sympathiser, ils vont être copains, ils vont jouer un jeu ensemble, ou ils vont lire ensemble. Avec une identité parfaite, évidemment. Et regardez la réaction. Bon, il va rencontrer son créateur là aussi, c'est un moment du film, et surtout là je vous montre juste un extrait de la fin. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de le voir ou de le revoir si vous l'avez vu en étant un peu désappointé. Voilà, donc ça c'est le moment où David découvre qu'il non seulement il a un double, mais qu'il a un certain nombre de doubles. Voilà, donc remarquez comment il vient s'inscrire dans une forme inachevée, ici, qui constitue une sorte de masque. Voilà, donc avec le contraste entre le masque, évidemment, qui renvoie bien sûr à la magie du cinéma aussi, il y a une dimension très réflexive dans tous ces films-là. La musique joue aussi son rôle, évidemment. Voilà, donc les David démultipliés de la même manière que l'image est démultipliée à l'écran, avec en plus un homologue féminin de l'autre côté, voilà, avec la caméra qui se déplace, un léger panoramique de recadrage qui montre qu'on a bien une symétrie ici entre les deux genders, enfin le masculin et le féminin. « Donc là aussi un mouvement de caméra qui est très intéressant, donc un travelling avant cette fois. Qui montre la détresse littéralement de l'enfant robot. Et alors c'est une très belle image avec donc cette fois un mouvement de caméra ascendant. Et là vraiment bon, le spectateur ne peut pas avoir, ne pas manifester une empathie vis-à-vis de cet enfant qui a découvert qui n'avait pas d'identité en fait propre. D'où la plongée qui suit. Mais qui n'est pas la fin de l'histoire, hein. Donc après je ne veux pas faire de spoiler pour ceux qui ne l'auront pas vu. Très belle, voilà, très beau mouvement légèrement ralenti. Donc ce film est tout à fait passionnant. Donc je sais pas, ouais, il me reste quelques minutes. Je vais terminer peut-être par, je vais passer sur iRobot que je vous recommande quand même. C'est un film d'Alex Proyas qui est un petit peu, qui a été un peu mal aimé, disons, par la critique. Bon, qui n'est pas forcément totalement dépourvu d'erreurs scénaristiques, ou en tout cas de problèmes scénaristiques, mais qui est quand même tout à fait intéressant, justement par rapport aussi à cette question de l'humanisation du robot, qui n'a pas figure humaine cette fois, c'est pas un androïde, hein, c'est un robot vraiment qui reste un robot. Alors si vous avez encore quelques minutes, je peux vous montrer un très court extrait de celui-là, et après je terminerai par un film qui est assez passionnant, qui s'appelle Surrogates, littéralement les substituts, en français clones. Donc voilà, iRobot. Ah non, qu'est-ce qui se passe là ? Bon, je crois que là, il y a un problème. Il est en train de... Est-ce que... Il est là, Vous êtes là ? Je ne sais pas, ça c'est... Il y a eu un... Bon, ça va, ça a l'air d'être revenu, c'est bon. Voilà iRobot. Donc, Eddie Murphy, voilà. Et donc, la confrontation, il est censé interroger un robot criminel. Vous allez voir comment se pose. Donc là, les sous-titres sont en français, donc il n'y a pas de problème. Alors là, on a un double rapport à l'homme-machine, la machine, telle qu'on la voit là, mais donc qui a des émotions, donc qui est vraiment une intelligence artificielle de niveau 2, hein, clairement. Et l'homme qui est en fait un cyborg, puisqu'il a une partie de son corps et mécanique. Et quand il parle de son père, évidemment, il renvoie au savant qui l'a créé, hein, et qui l'a aidé à se suicider, d'où l'accusation d'être un criminel. Voilà, donc on va avoir une sorte de discours contradictoire, hein, l'humain affichant l'impossibilité pour le robot d'éprouver des émotions, et le robot se défendant en donnant des exemples. Bon, c'est un peu didactique presque, hein, ici. Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Oui, en plus, vous voyez qu'il pose une question piège, hein, puisqu'il évidemment, ne peut pas répondre qu'il est capable de faire une œuvre d'art, ce n'est pas un artiste. Donc on a l'explication rationnelle du flic cyborg, qui n'arrive pas à accepter son identité de cyborg, et puis on a un robot au contraire qui veut assumer son identité, mais en tant qu'humain. Voilà. Là aussi, il y a un élément de violence linguistique, et qui est accompagné par une gestuelle, hein, violente. Voilà. Ever simulate anger before? Answer me, Canner. My name is Sonny. So we're naming you now. Is that why you murdered him? He made you angry? Dr. Lanning killed himself. I don't know why he wanted to die. He asked me for a favor, made me promise. What favor? Maybe I was wrong. Maybe he was scared. What are you talking about? Scared of what?
You have to do what someone asks you. Don't you, Detective Spooner?
No, you know my name.
Don't you? If you love them.
Bon, alors tout l'enjeu du film, c'est évidemment le rapprochement des points de vue, hein, et finalement l'union, à la fin du film, entre ces deux créatures, peut-être pour un bénéfice pour l'humanité tout entière, dans la suite du film. Alors, je termine ce panorama avec un film que je trouve très intéressant, parce qu'il pose un autre type de problème, c'est... là, du coup, c'est pas du tout un problème de... comment dire... d'humanisation... c'est pas un problème d'humanisation. On se pose pas la question de l'humanisation possible ou potentielle, etc. C'est véritablement un rapport entre l'homme et la machine sous une autre forme. C'est-à-dire, l'homme va se servir d'une machine, donc androïde, de type androïde, qui lui permet de réaliser tous ses fantasmes les plus fous, de compenser son infirmité physique ou mentale, etc. Mais il va percevoir que c'est au prix de sa déshumanisation réelle. C'est tout l'enjeu de ce film-là. Et la force du début que je vais vous montrer, c'est d'associer des plans documentaires, c'est-à-dire tirés d'archives scientifiques, hein, de conférences scientifiques, etc., d'interviews de savants bien connus, avec des éléments fictionnels pour faire passer un message, disons pour le spectateur, qui est censé y croire, que effectivement, avec une projection dans le futur, que ceci serait possible, qu'on n'est déjà pas très loin de cet état-là en termes scientifiques, ce qui est évidemment un peu exagéré, forcément. Et on a une sorte de rappel historique en plusieurs étapes, et que vous allez voir maintenant, puis après, si vous voulez, on pourra passer à la discussion. Parce que je n'aurai pas le temps de dévoiler. Je décrirai après, mais je préfère vous montrer sans décrire. Parce qu'on commence de manière un peu énigmatique par, tout de suite après ça, par une voix off dont on ne sait pas d'où elle vient et qui donc énonce une vérité ou un point de vue, on va dire.
Unplug from your chairs, get up and look in the mirror.
Ça ressemble à un sermon.
Hein.
En gros, c'est une exhortation qui est « Humain, lève-toi de ton fauteuil, va te regarder dans le miroir. Dieu n'a pas prévu que tu sois transformé en machine ou que tu puisses te laisser qu'une machine puisse se substituer à toi. » Donc c'est une sorte, encore une fois, d'appel à la révolte contre quelque chose. Hein, et donc ça va concerner, comme beaucoup de films ou de romans qu'on appelle dystopiques, entre une société, disons, où un ordre règne, hein, un ordre totalitaire ou autre, et puis il y a toujours un groupe de déviants, un groupe de rebelles qui va lutter. Ici, ce sont des gens qui sont une communauté qui est anti-clone, hein, qui refuse l'utilisation des clones et qui veut éliminer en quelque sorte les clones en les tuant si possible, ou en tout cas en les mettant hors d'état de nuire. Donc voilà, donc le film s'appelle Surrogates, donc clone. Mais le terme anglais, ça veut dire substitut, littéralement. Hein. Comme c'est emprunté un peu comme la mère porteuse, hein, surrogate mother, hein, on dit en anglais. Et donc on a différentes étapes d'un processus scientifique. Et on reconnaît à chaque fois des scientifiques réels. Bon, là, évidemment, c'est un acteur, c'est le même que celui qui joue dans iRobot. Donc, au début, c'est pour aider les handicapés physiques. Ensuite, c'est récupéré par l'armée à des fins d'expérimentation militaire et pour faire des robots soldats, littéralement. Et ensuite, cette expérience se généralise à l'ensemble de la population, qui va pouvoir utiliser donc des substituts physiques parfaits et qui peuvent satisfaire effectivement leurs fantasmes les plus fous. Je ne peux pas monter le son. Vous comprenez à peu près, je pense. Voilà, on voit ici la généralisation. et la prise en charge aussi par des grandes sociétés, des grands consortiums capitalistes qui vont produire en masse ces clones et évidemment en faire la publicité pour que tout le monde soit équipé de clones. Donc l'enjeu du film, c'est comment l'humain peut se retrouver après avoir vécu par procuration, par l'intermédiaire d'un clone qui lui est connecté. Et donc là, évidemment, on a une sorte de mise en cause de la publicité, des médias, de la manipulation, des consciences par les médias modernes, etc. Donc on retrouve un peu des questions d'intelligence qu'on a posé pendant ce. Donc ça, c'est un vrai professeur d'informatique qui s'intéresse à la question de moi. Ça, c'est un ingénieur cybernétique réel. Et voilà, donc la dernière étape, c'est justement la révolte. Voilà, ceux qui se révoltent et qui manifestent contre ces robots. Donc avec ce qu'on appelle donc des réserves qui sont libres de la présence des clones en fait. Donc on va avoir deux mondes, un monde où les clones règnent, enfin où les clones ont remplacé, où tout le monde, où la plupart des citoyens ont des substituts, et une enclave, disons, ou des enclaves où ils ne sont pas présents. Bon voilà, j'ai été obligé d'accélérer un tout petit peu si vous voulez poser quelques questions. Mais enfin, je voulais quand même faire un panorama à peu près complet jusqu'à aujourd'hui, enfin, parce que c'est un film relativement récent. Je sais pas, vous l'avez vu, Clone, non? Je trouve que c'est un film intéressant. Après, l'idéologie derrière, on peut discuter. Avec le happy end final, évidemment, hein, puisque voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur... Oui.
Du coup, on retrouve cette idée dans la série suédoise, Real Humans.
Absolument.
Qui, moi, me fascine. Je suis complètement accrochée à cette série-là, parce que je me dis tout le temps que Jules Verne nous a écrit il y a plus d'un siècle qu'on allait aller sur la Lune. Ça s'est réalisé. Et souvent, je me dis, est-ce que tous les romans de science-fiction, les films de science-fiction qu'on voit aujourd'hui, est-ce que c'est pas une projection c'est la question que tout le monde se pose, mais moi ça me fascine.
Oui, alors je suis assez d'accord. Moi j'étais au début, enfin je sais pas si vous connaissez cette série, qui s'appelle la première saison, enfin j'ai pas tout vu, hein, mais le problème de cette série, c'était que les clones étaient inexpressifs. Dans un premier temps, voilà. Donc il y avait un problème d'expression, littéralement, des moins expressifs à la limite que robots d'intelligence artificielle ou de iRobot. Mais je crois qu'ensuite ça change. Et puis bon, il y a effectivement différents types de clones. Enfin, donc
il y a la question qui se pose. Dans la première saison, il y a celle qui est un type un peu asiatique.
Oui.
Qui se fait agresser par une bande de jeunes. Et donc la question se pose, est-ce qu'on a agressé un être humain, est-ce qu'on a agressé une machine? Il y a des débats là qui se posent, et puis il y a aussi les anti-robots.
Voilà, exactement, il y a exactement le même schéma avec toujours cette opposition, c'est les anti-robots. Mais moi je trouve que cette série gagne à être vue effectivement en entier, comme ça arrive à certaines séries qui ont du mal à démarrer en quelque sorte, à trouver leur rythme, et puis petit à petit on...
C'est pas américain,
mais je vous recommande aussi certaines séries britanniques, alors qui sont pas forcément liées, mais il y en a une dont j'ai parlé un petit peu ce matin, c'est Black Mirror. Je sais pas si vous connaissez, qui est absolument remarquable aussi, mais dans un autre domaine. Hein, c'est pas une histoire. Mais il y a aussi de l'intelligence artificielle dans cette série, bien sûr. D'autres questions? Oui.
Je me posais la question dans iRobot.
Oui.
Vous disiez que le héros n'acceptait pas son statut de cyborg, mais est-ce qu'on peut le considérer comme un cyborg?
Techniquement, c'est un cyborg. Parce qu'une partie de son corps est totalement mécanique. Ouais. Ce qui lui donne un statut de super-héros dans le film, en plus, quand même.
Dès qu'on a
absolument.
Un membre mécanique,
C'est la définition, c'est la présence du mécanique dans le corps organique. Donc, alors plus ou moins marqué. D'ailleurs, certains créateurs d'art contemporain, si vous regardez sur Internet, vous trouverez, qui se font des expériences, effectivement, d'implantation de prothèses pour essayer de simuler ce que pourrait être l'homme du futur. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, et c'est assez impressionnant. Enfin, je ne sais plus du nom de l'artiste, mais Orlan a fait des choses comme ça, mais de manière moins marquée, avec des opérations chirurgicales classiques, entre guillemets, pour modifier son corps, littéralement. Mais cet artiste-là, il va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il fait des implants vraiment de prothèses. Et, voilà. Et donc, techniquement, c'est un cyborg. Voilà. Et il a du mal à accepter donc, ce statut-là, et petit à petit... Bon, voilà. Mais bon, après, je ne veux pas dévoiler la fin du film pour ceux qui l'ont vu, mais il y a une sorte de vision on va dire un peu historique hein, dans l'histoire, qui est évidemment liée aussi à la source littéraire, donc les nouvelles d'Asimov. Il y a tout un cycle de nouvelles, et les trois, la trilogie Fondation aussi, qui évoque l'histoire de l'humanité sur une très longue période, avec la présence justement de ces robots, des entités robotiques, donc qui sont circonscrits par les trois lois de la robotique, et qui sont justement perverties en partie dans le film de Proyas. C'est-à-dire que les robots deviennent hostiles, enfin, potentiellement dangereux pour l'homme, contre les lois robotiques d'Asimov. Voilà, non, mais vous avez raison. Cela dit, bien sûr, Eddie Murphy reste fondamentalement plus humain, on le voit bien, mais il y a des moments précis où on insiste sur cette présence donc, du mécanique.
J'ai une image du cyborg beaucoup plus... Enfin, oui, manga en fait.
Et oui, voilà, c'est ça. Oui, absolument. Machine, ouais. Je crois qu'il y a des degrés de cyborgisme, je ne sais pas comment dire, mais la définition qui est donnée par Donna Haraway, qui est donc une des grandes spécialistes, enfin théoricienne, qui est la première à théoriser un peu cette notion-là dans les œuvres de fiction, et pas seulement d'ailleurs, c'est justement un hybride d'organisme, d'organique et de mécanique. Voilà. Alors l'hybridité, évidemment, peut être à 90-10 ou 50-50 ou 80-20, etc. Alors les mangas, oui, alors là, ça sera encore une autre culture. Moi, je me suis concentré sur le cinéma hollywoodien à part l'exemple de Metropolis, mais c'est sûr que là, il y aurait de quoi faire une conférence aussi sur tout ce travail-là dans les mangas. Oui.
Il y a une série récente qui s'appelle Extant aussi, qui traite surtout des rencontres extraterrestres, mais il y a aussi abordé la question de la robotique. Mm-hmm. Et justement, il y a un personnage qui contribue fortement au développement d'un robot, enfin, d'un robot du coup très proche de l'humain, et qui, elle aussi, est équipée de prothèses qui sont les mêmes parties du robot qu'elle développe, et du coup il y a aussi la question de à quel moment l'humain devient cyborg, à quel moment le cyborg devient humain, ouais, à travers ces deux personnages qui partagent finalement les mêmes corps.
Les mêmes corps, oui, tout à fait. Mais on joue constamment, c'est ça qui est intéressant dans ces films, sur la porosité des frontières, quoi. Enfin, c'est des frontières à la fois physiques, physiologiques, émotionnelles et ontologiques, en quelque sorte. Hein, donc c'est un peu ça.
À ce sujet-là, j'allais vous poser la question. Dans le parcours que vous avez dessiné, où est-ce que vous intégreriez la série Battlestar Galactica? Notamment où il y a quand même une quantité de problématiques qui sont abordées dans cette série-là.
Ben oui, justement. Enfin, je crois que c'est une série. Enfin, je la connais pas très très bien. Hein, ouais. Donc, j'ai vu des certaines parties de saison, mais on aborde évidemment toutes ces questions-là. Alors, je sais pas si j'ai pas vraiment voulu dessiner un parcours historique. Hein, j'ai essayé d'associer un peu l'histoire, l'évolution historique, mais aussi des moments charnières ou des films charnières où il y a vraiment des changements de mode de représentation, de mode de discours. Mais Battlestar Galactica, c'est un objet en soi, donc il faudrait développer pour soi-même. Mais disons, dans beaucoup de séries, on retrouve évidemment ces motifs-là. C'est devenu un petit peu incontournable maintenant dans la culture contemporaine, je crois. On trouve ça aussi dans les romans graphiques, dans les bandes dessinées, enfin donc... tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous diriez alors par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle a d'original par rapport à cette question d'intelligence artificielle?
Par exemple, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu la série Galactica, qui mm-hmm. était la série encore avant, dans laquelle...
Antérieure.
Dont on voit les a priori, à la fin... de la série, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une frontière entre les hommes et les machines qui devient de plus en plus ténue au fur et à mesure des saisons. Quoi. Ouais. Et puis comme enfin c'est ça se précipite au fur et à mesure quoi. Mmh. Et c'est hyper intéressant pour ça. Et puis il y a aussi enfin une problématique qui est posée dès le début de la saison, enfin dès le début de la série, qui est la nécessité d'avoir une technologie entre guillemets archaïque pour résister à des technologies plus développées mais dont la sûreté est moindre.
Ouais, ouais.
Donc ça envoie des problématiques de sûreté de l'information notamment.
Oui, tout à fait, ça c'est très intéressant aussi. Voilà, là aussi, hein, il faudrait parler aussi d'un autre courant qui est le sur la question du rapport entre la technologie archaïque et la technologie moderne, ou la magie et la technologie. Enfin, là, il y a encore d'autres enjeux. Ouais, disons, ouais. Aussi. D'autres questions, remarques, enfin il est tard, donc je ne vais pas vous retarder trop longtemps. Mais essayez de voir les films qui sont présentés, qui sont en rapport avec cette thématique-là, en essayant d'arriver à l'heure, parce que enfin, même un peu en avance, il y a du monde en général, même pour les rétrospectives. J'espère que vous aurez l'occasion de voir certains de ces films si vous ne les avez pas encore vus. J'ai été obligé d'accélérer certains extraits, je m'excuse, hein, mais sinon j'aurais pas pu montrer ce que je voulais. Merci en tout cas d'avoir été là.
Merci.
J'espère
vous,
que ça vous a plu et voilà. Et que vous trouvez que le concept de faire une espèce de cours du soir qui n'ont pas vraiment des conférences qui sont voilà
extrêmement bien, d'accord. Extrêmement intéressant.
Bon, écoutez, dites-le aux organisateurs pour que ça soit renouvelé. C'est important pour moi et mes collègues qui avons fait ça. D'avoir un public, même si c'est, mais au moins c'est un public de gens qui sont intéressés, qui sont attentifs et qui posent des questions. Donc ça, pour nous, c'est très sympathique aussi. Voilà. Ça nous fait très plaisir, même si vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est un peu la lampe. Puis c'est tard, hein, je veux dire, 7h30, effectivement, ça commence à faire tard pour un certain nombre de gens aussi. Je vous souhaite un très bon festival et puis peut-être à l'année prochaine.
Merci.